France Musique. Musicopolis. Glinka, une vie pour la musique russe. En 1845, Berlioz, dans le journal des débats, présente Glinka comme un compositeur russe d'un mérite éminent par le style, par la science harmonique et surtout par la fraîcheur et la nouveauté des idées. 5 colonnes plus tard, le même Berlioz conclut que l'auteur de Rouslan, c'est-à-dire le sudit Glinka, peut à bon droit prétendre à une place parmi les compositeurs excellents de son époque. En 1845, lorsque Berlioz écrit que Glinka est un excellent compositeur, nul n'a encore conscience qu'il va inspirer les générations à venir de compositeurs russes. Mais pour nous qui savons, la tâche est plus facile et nous pouvons suivre le cheminement de celui qu'on appelle aujourd'hui le père de la musique russe. Dès son enfance, Mikhaïl Glinka a entendu chanter les paysans de son pays. Il est né dans une famille noble de la région de Smolensk, à environ 800 km au sud de Saint-Pétersbourg, la capitale. Son enfance s'est déroulée dans la maison familiale de Novospaskoye, dont on voit les photos en faisant une petite recherche sur Internet. Une belle grande maison toute bleue, avec un portique néoclassique soutenu par de hautes colonnes. Une maison absolument perdue au milieu de la grande plaine russe, et où on n'entend que le son des cloches et les chants des humains et des oiseaux une fois l'hiver fini. Le jeune Glinka entend les cérémonies religieuses à l'église de Novospaskoye et il se sent rempli d'une extase enthousiaste. Il entend aussi les domestiques et les paysans dans tout leur répertoire de chants populaires. Mikhaïl Glinka, enfant, reçoit une éducation très variée, qui lui laisse le temps de lire, de rêver et de développer son imagination. Il apprend les langues, la culture générale et bien sûr un peu de musique. On réunit des petits ensembles maison, Un de ses oncles met parfois à la disposition de la famille son petit orchestre composé de serfs du domaine. Mikhaïl les fait travailler, il les dirige, il apprend ainsi les multiples combinaisons instrumentales. Lui-même se met facilement au piano ou au violon. On chante, on danse, les danses à la mode. À 14 ans, Glinka entre dans un collège de Saint-Pétersbourg où il reçoit l'éducation de tout jeune noble destiné aux emplois de haut fonctionnaire impérial. Il a l'occasion de prendre 3 leçons avec John Field, le grand maître du nocturne. Et il étudie la musique avec un professeur pétersbourgeois. À 18 ans, il rentre à Novospaskoye, où il fait à nouveau travailler les orchestres de paysans. À présent, il leur fait jouer les classiques Haydn, Mozart, pas si vieux que ça, en 1822, et les modernes, Beethoven, Cherubini, Méhul. Il voyage dans le Caucase, où il découvre une musique populaire plus exotique et colorée. Enfin, il prend un emploi dans l'administration des communications à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, la capitale, où il fait moult rencontres dans les cercles littéraires et musicaux, où il croise tous les poètes du temps.
Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальных. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степи ночи при луне черты далекой милой девы. Милой девы.
Пушкин, Жуковский, Батюшков, Микевич. Quelques-uns des poètes que Glinka rencontre à Saint-Pétersbourg et dont il met la poésie en musique. Il s'enflamme pour la nouvelle littérature russe. Il prend des leçons de chant. Il a une mauvaise santé et son médecin lui recommande le sud. Il part pour l'Italie, bien sûr. Son séjour italien commence par Milan, où il assiste à quelques premières. Anna Bolena de Donizetti, La Somnambule de Bellini. Il se lie avec les deux compositeurs et avec leur librettiste Romani. Il s'enthousiasme pour le bel canto. Il s'emballe pour les thèmes italiens. Il compose des paraphrases d'opéra. Dans ses mémoires, Glinka déclare qu'il considère ce qu'il a composé en Italie comme des essais malheureux. écrit pour faire plaisir à ses amis de Milan. Ils ne servirent, ajoute-t-il, qu'à me prouver que je n'avais pas encore trouvé ma voie et que jamais je n'arriverais à me faire sincèrement italien. La nostalgie de la patrie m'amena peu à peu à l'idée d'écrire de la musique russe. En 1833, Mikhaïl Glinka quitte l'Italie. Avant de rentrer en Russie, il passe par Vienne, où il entend l'orchestre de Strauss et celui de Lanner. Puis, il rejoint Berlin, où il va prendre des leçons avec Siegfried Dehn, théoricien et professeur de composition qui va lui faire travailler le contrepoint et lui donner des bases plus solides qu'il n'en avait jusque-là. Plus il avance dans son art, plus Glinka songe à donner au théâtre russe un ouvrage de grande proportion. L'important, écrit-il à un ami, est de bien choisir le sujet. De toute façon, il sera absolument national. Et non seulement le sujet, mais la musique. Je veux que mes chers compatriotes se trouvent là comme chez eux. Et qu'à l'étranger, on ne me prenne pas pour un glorieux, un présomptueux qui se pare comme le jet des plumes d'autrui. Installé à Saint-Pétersbourg, Glinka fréquente les cercles littéraires les plus avancés, autour de Pouchkine, Gogol, Joukovski et bien d'autres. Tous cherchent à faire passer dans l'art moderne les traits caractéristiques des traditions russes. L'enthousiasme de Glinka pour faire naître un opéra national est partagé par tous. Très vite, un sujet paraît parfaitement adéquat, celui d'Ivan Soussanin. L'histoire se passe au début du XVIIe siècle, alors que le tsar Michel Romanov vient d'être élu. Les Polonais veulent l'enlever, ils demandent à un paysan, Ivan Soussanin, de les mener jusqu'à lui. Bien sûr, Ivan les perd dans les marais, tandis qu'il a envoyé prévenir le tsar.
Oh, yeah. горшом им колосьям войны росты цвет дает. Да когда страдному войску мощь свою народ.
Glinka compose son opéra Ivan Sousanin dans l'exaltation la plus totale. Il ne s'arrête plus de composer, en voiture, à la campagne, en visite, au milieu de sa famille ou de ses amis. Son librettiste, le baron de Rosen, n'arrive pas à suivre. Et souvent, la musique est prête avant les paroles, qui doivent ensuite être adaptées pour s'ajuster aux notes. Dès que l'opéra est terminé, on entend des fragments dans les salons. Les orchestres privés jouent l'ouverture et les airs de ballet. Enfin, une date est décidée pour la première. On commence à répéter. Tous les interprètes se donnent à fond. L'orchestre du Théâtre impérial est excellent. Un après-midi, l'empereur Nicolas vient assister à une répétition. Glinka le prie d'accepter la dédicace de l'opéra, qui change de titre dans la foulée et s'appelle dorénavant « Une vie pour le tsar ». Le succès d'Une vie pour le tsar est extraordinaire dès la création. Glinka est félicité par l'empereur, tandis que ses amis poètes font assaut de couplets de poésie pour le célébrer. Quelques semaines plus tard, il est nommé professeur des chantres de la chapelle impériale, un chœur qui a acquis une grande réputation dans toute l'Europe, notamment pour les chanteurs qu'Adolphe Adam appelle des contrebasses vivantes. Glinka conservera ce poste pendant 3 ans, mais très vite, il songe à retourner à l'opéra. Il va prendre cette fois-ci pour sujet un conte de Pushkin, Rouslan et Ludmila. Malheureusement, Pushkin meurt dans un duel avant d'avoir écrit le livret, qui sera fait en conséquence de briques et de brocs par 5 auteurs différents, dont Glinka.
«
Dans Une vie pour le tsar, Glinka avait mis en valeur l'opposition entre les Russes et les Polonais, les deux camps caractérisés chacun par sa musique. Les Russes traités en individualité bien dessinée, les Polonais comme une masse indifférenciée. Dans Ruslan et Ludmila, ce ne sont plus des nationalités qui s'opposent, mais des univers, celui du monde réel, celui de l'exotisme et celui de la magie. Pour toute une série de raisons, son sujet, loin du patriotisme triomphant d'une vie pour le tsar, son livret, souvent bancal, sa mise en scène et ses décors peu soignés, Ruslan et Ludmila n'obtient pas le succès espéré par Glinka, qui va en concevoir une amertume dont il ne se remettra pas vraiment. Pourtant aujourd'hui, Ruslan est le plus joué de ses opéras, et considéré musicalement comme bien plus russe que son prédécesseur. Glinka disait à sa sœur « Vois-tu ? Ils comprendront Ruslan dans 100 ans. » En fait, il n'y a pas eu besoin d'attendre si longtemps, puisque très vite après sa mort, l'ouvrage a trouvé le chemin des chœurs russes pour conquérir la première place dans le répertoire des théâtres impériaux. Le chœur final de Ruslan et Ludmila de Mikhail Glinka par le chœur et l'orchestre du théâtre Bolshoï dirigé par Yuri Simonov. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe est composée aujourd'hui de Benjamin Vignal pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.